Vous écoutez On lit pour vous.
Le rêve d'ascension sociale remis en question. Un texte de Francis Vaille paru le 6 juillet 2026 dans la presse. Quand on veut, on peut. Cette maxime reflète bien l'esprit de l'American Dream, selon lequel chacun peut devenir riche aux États-Unis à partir de rien, grâce à son travail et à sa détermination. Mais ce rêve de prospérité bien présent au Canada est-il vérifiable? Jusqu'à quel point les ménages parviennent-ils à grimper dans l'échelle de revenus et à changer de classe sociale, particulièrement les plus pauvres? Les économistes Mary Conley et Catherine Haake de l'UQAM se sont penchés sur cette question de la mobilité sociale, avec des constats fort intéressants. Pour y parvenir, elles ont notamment comparé les revenus à l'âge adulte des enfants nés entre 1963 et 1985 avec ceux de leurs parents. Les données de plus de 6 millions de Canadiens, tirées de Statistique Canada, ont été analysées. Les revenus à l'âge adulte sont ceux gagnés entre l'âge de 27 et 31 ans, entre autres, donc jusqu'en 2016 pour les enfants nés en 1985. Je vous parle plus loin des enfants nés plus tard et qui ont 30 ans en 2026, aux prises avec la hausse du prix des logements. Plus difficile pour les pauvres. Premier constat de l'étude. La mobilité sociale a régressé pour les particuliers du premier quintile de revenus au Canada, les plus pauvres. Dit autrement, la probabilité pour les enfants moins nantis de rester dans ce quintile de faibles revenus de leurs parents a augmenté au fil des années. Cette stagnation dans le bas de l'échelle est passée de 27,5% pour les enfants nés au début des années 1960 à 33,1% pour ceux nés au début des années 1980 et qui ont eu 30 ans dans les années 2010. Cette trappe de la pauvreté a augmenté progressivement au fil des 22 ans de l'étude. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Québec ne se démarque pas particulièrement favorablement à cet égard. La province est même légèrement au-dessus de la moyenne canadienne, avec une probabilité de rester dans le premier quintile qui s'élève à 33,3% pour les enfants nés au début des années 1980. Évidemment, il ressort de ces données qu'à l'inverse, la probabilité de sortir de la trappe de la pauvreté est quand même grande. Si le tiers y reste, c'est donc que les deux tiers en sortent, passant au quintile supérieur. Le corollaire, cependant, c'est que certains particuliers qui ont vécu dans les quatre quintiles supérieurs sous leurs parents tombent dans le quintile inférieur, au début de la trentaine, remplaçant ceux qui en sortent. La mobilité sociale va dans un sens comme dans l'autre. Et qui donc tombe dans ce premier quintile? Selon l'étude, la répartition des remplaçants entre les quatre quintiles supérieurs n'a pas beaucoup bougé dans le temps. Ainsi, vers l'âge de 30 ans, les enfants nés en 1985 sous des parents du cinquième quintile, les mieux nantis, sont environ 12,1% à tomber dans le premier quintile, contre 14% au début des années 1960. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont ceux du deuxième quintile qui tombent en plus grande proportion dans le premier quintile de revenus, 21,8%, mais cette proportion est semblable à celle de 1963, 21,9%. Cuillère d'argent dans la bouche ou pas? Cette question de la mobilité sociale est centrale dans notre système économique. Il va de soi que les gens du cinquième quintile, en raison de leur instruction souvent plus grande, contribuent à maintenir leurs enfants dans des strates de revenus plus élevées. En même temps, notre système socio-économique doit idéalement permettre qu'il y ait une mobilité entre les rangs, que grâce à la liberté, au travail et à l'accès aux services publics, ceux qui sont moins nantis puissent accéder au quintile supérieur. Et inversement pour les enfants nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Justement, les chercheuses ont pu mesurer ce niveau de mobilité. Pour constater que les revenus des parents sont un grand prédicteur du rang moyen futur des enfants, quoique pas le seul, et que ce prédicteur, du moins ce lien statistique, est bien plus grand aux États-Unis qu'au Canada. Bref, que le rêve américain est moins accessible aux États-Unis qu'au Canada, paradoxalement. Sous forme de graphique visuellement, ça vaut mille mots. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'une courbe horizontale, donc plate, signifierait que la mobilité sociale est parfaite et aucunement liée aux revenus des parents. À l'inverse, une courbe à 45 degrés indiquerait que le rang centile de revenus des enfants devenus adultes est parfaitement lié à celui des parents. Bref, plus la courbe est plate, plus la mobilité intergénérationnelle entre les rangs de revenus est grande. Ce n'est pas tout. En mettant la loupe sur le phénomène, les chercheuses ont fait un autre constat étonnant, tout récemment. La situation des Autochtones explique la presque totalité des incohérences de la courbe canadienne pour les parents qui sont dans le quintile de revenus inférieurs. En retranchant les Autochtones de la base de données, la courbe canadienne redevient droite même chez les faibles revenus, mais tout de même encore bien moins pentue que celle des États-Unis. Et une courbe propre aux Autochtones illustre le fossé de revenus avec les non-Autochtones, en plus d'un angle plus abrupt se traduisant par une mobilité intergénérationnelle deux fois plus faible que chez les non-Autochtones. En somme, la mobilité sociale a diminué pour les plus pauvres au Canada sous la génération X, selon l'étude, et les Autochtones sont particulièrement frappés. La tendance changera-t-elle sous les millénarios et la génération Z? C'est bien possible, selon moi. D'abord parce qu'au Québec, de nombreuses familles ont bénéficié de la politique familiale de Pauline Marois en 1998 avec les garderies à contribution réduite. Ensuite parce que le taux de pauvreté a diminué après l'instauration de l'allocation canadienne pour enfants en 2016 sous le gouvernement Trudeau. En revanche, le boom du prix des logements et des maisons depuis 5 ans pourrait brouiller les cartes. Certes, le phénomène ne change pas le niveau de revenus de travail, mais pourrait jouer sur le patrimoine des moins nantis. Les parents pauvres ne peuvent contribuer à la mise de fonds d'une maison, et éventuellement sur leur capacité à changer de classe sociale. C'était le rêve d'ascension sociale remise en question. Un texte de Francis Vaille paru le 6 juillet 2026 dans La Presse.
Le mieux-être des adolescents ne peut pas reposer sur leurs seules épaules. Un texte d'opinion de Steve Laberge paru le 13 août 2026 dans Le Devoir. L'auteur est vice-président principal aux affaires commerciales et leader Québec chez Green Shield et administrateur de la fondation Tel Jeune. On en demande beaucoup aux adolescents. On leur demande de réussir à l'école, de se projeter tôt dans l'avenir, de composer avec la pression sociale, les médias sociaux et des inquiétudes qui dépassent largement leur âge, tout en trouvant souvent seuls les mots pour dire qu'ils ne vont pas bien. Cette pression n'est pas qu'une impression. Le portrait croisé des réalités adolescentes au Québec que vient de dévoiler Tel Jeune met en lumière une réalité trop souvent silencieuse. Les jeunes ont besoin d'être mieux compris, mais surtout mieux entourés. Derrière cette réalité, les données tracent un portrait préoccupant. Même si plusieurs jeunes continuent de faire preuve de résilience, la santé mentale, des 12 à 17 ans, s'est détériorée de façon importante au cours des dernières années. Tel Jeune le constate déjà dans ses interventions. Les problèmes de santé mentale y occupent une place croissante, passant de 40 % à 50 % des demandes d'aide en 3 ans. Dans les témoignages des adolescents, les mêmes réalités reviennent avec insistance. Dépression, stress, anxiété de performance, faible estime de soi, solitude et détresse plus marquées chez les adolescentes. Ces constats font écho à ceux que Green Shield documente depuis plusieurs années. En 2024, notre organisme rappelait déjà que les jeunes ne manquent pas seulement de ressources en santé mentale, mais aussi de repères pour y accéder. Dans ce contexte, l'accès aux services demeure essentiel, mais il ne suffit pas. Les jeunes doivent pouvoir trouver de l'aide, bien sûr, mais surtout s'y reconnaître assez pour oser y recourir. Peur. Cela étant, le portrait de tel jeune rappelle que plusieurs attendent encore avant de demander du soutien, même lorsqu'ils sentent que leur détresse devient difficile à porter. La peur d'être jugé, d'inquiéter leurs proches, de déranger ou de ne pas être compris continue de peser lourdement dans leur décision de parler ou de se taire. Les données de recherche en santé mentale Canada, publiées en novembre 2025, ajoutent une couche à ce constat. L'aide doit être à portée de main, au bon moment et dans un format qui parle aux jeunes. Pour plusieurs, le coût reste le principal obstacle devant les délais d'attente et la difficulté de trouver l'aide adéquate. Ces obstacles s'inscrivent dans un contexte plus large où les pressions économiques et l'incertitude quant à l'avenir nourrissent le stress et l'anxiété, particulièrement chez les jeunes racisés et de la communauté LGBTQ+. C'est pourquoi il faut aller plus loin que la simple multiplication des ressources. Si l'on veut que l'aide atteigne réellement les jeunes, elle doit être pensée à partir de leur réalité et construite avec eux. Un service, aussi pertinent soit-il, ne peut avoir d'effet que s'il est accessible, crédible et significatif à leurs yeux. C'est précisément là que notre responsabilité collective prend tout son sens. La santé mentale des adolescents ne relève pas uniquement du système de santé. Elle se construit dans les familles, les écoles, les organismes communautaires, les politiques publiques et les entreprises qui choisissent de s'engager concrètement. Chacun peut contribuer à réduire les obstacles, à renforcer les facteurs de protection et à créer des environnements où les jeunes n'ont pas à attendre d'être en crise pour recevoir du soutien. C'est aussi en misant davantage sur la prévention que l'on peut agir plus tôt, avant que la détresse ne s'installe, et poser aujourd'hui les gestes qui contribueront à la santé et à la résilience de la prochaine génération. Le portrait de tel jeune doit donc être entendu comme un signal, un appel à mieux structurer le filet autour des jeunes, avec eux et pour eux, afin qu'ils n'aient pas à porter seuls ce qui devrait relever de toute une société. C'était « Le mieux-être des adolescents ne peut pas reposer sur leurs seules épaules ». Un texte d'opinion de Steve Laberge paru le 13 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. En 1989, survol de Neptune par Voyager 2. La sonde américaine Voyager 2 effectue son survol rapproché de Neptune, la planète la plus éloignée du système solaire. Elle transmet des images inédites de la planète bleue et découvre plusieurs de ses lunes ainsi que ses vents extrêmement violents. Cette rencontre marque la fin du grand périple de Voyager 2 à travers les planètes géantes du système solaire. Ces données demeurent, plusieurs décennies plus tard, les seules observations rapprochées jamais réalisées de Neptune. C'était Éphéméride. Un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août.
un projet pilote pour lutter contre l'itinérance et les surdoses à cette île. Un texte de Lucas Sanity avec les informations de Catherine Paquette, paru le 23 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada. Face à l'augmentation visible de l'itinérance et aux défis grandissants posés par la crise des opioïdes, Santé Québec Côte-Nord lance un nouveau projet pilote d'intervention de proximité. À partir du 27 juillet, une infirmière et une technicienne en travail social iront directement à la rencontre des gens dans les milieux qu'ils fréquentent. Cette initiative privilégie une approche proactive et sans rendez-vous, que ce soit dans les organismes communautaires, les parcs ou sur le bord de la plage. L'objectif est de bâtir un lien de confiance et de réduire les obstacles qui freinent l'accès aux soins. Une approche complémentaire. Citation : Ce qu'on veut, c'est aller là où les gens sont, donc aller à leur rencontre en offrant ce service de proximité et en se permettant d'être complémentaire avec les services qui existent déjà. Fin de citation, explique Lucie Cormier, chef des programmes dépendance et itinérance chez Santé Québec Côte-Nord. Bien que des travailleurs de rue comme ceux du Rond-Point œuvrent déjà dans le milieu, cette nouvelle équipe mobile apporte une expertise médicale supplémentaire, ajoute-t-elle. Citation, « L'itinérance n'a pas de visage, n'a pas d'âge. » Fin de citation, dit-elle. L'infirmière pourra, par exemple, détecter des symptômes de diabète ou assurer un suivi clinique en collaboration directe avec les pharmacies. Citation, « La coche de plus, c'est qu'on est des professionnels de la santé. » Fin de citation, résume Lucie Cormier. Les intervenants seront d'ailleurs équipés pour distribuer du matériel d'injection sécuritaire et de détection de substances, en plus d'avoir en leur possession des trousses de naloxone pour intervenir en cas de surdose. Un projet destiné à évoluer. Actuellement à petite échelle, le projet bénéficie d'un investissement de 15 heures par semaine pour une durée initiale de 3 mois. Pour le moment, l'équipe se concentre principalement sur le secteur urbain de cette île. Santé Québec Côte-Nord procédera à une évaluation des résultats et des indicateurs à la fin de cette période d'essai. L'objectif à long terme est de trouver des sources de financement pour assurer la continuité du projet et potentiellement l'étendre à d'autres municipalités de la région. C'était un projet pilote pour lutter contre l'itinérance et les surdoses à cette île. Un texte de Lucas Sanity avec les informations de Catherine Paquette, paru le 23 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada.
Un papillon tropical pour identifier les cancers. Un texte de la rédaction paru le 4 novembre 2024 dans Québec Science. Les ailes du morpho bleu, un papillon d'Amazonie, ont des propriétés optiques uniques qui peuvent être mises à profit pour la détection de certains cancers. Le morpho bleu est un grand papillon amazonien dont le dos des ailes est d'un magnifique bleu iridescent. Des scientifiques de Californie viennent de découvrir que ces ailes pourraient aider à détecter certains cancers de façon simple, rapide et peu coûteuse. Étonnamment, le bleu des ailes du morpho n'est pas dû à un pigment. La couleur vient de la structure microscopique de ces écailles, des micro- et nanostructures qui manipulent la lumière. Quand la lumière polarisée, un type de lumière très orientée, frappe ces ridules, elle est réfléchie de façon très spécifique et nous apparaît bleue. Une équipe de l'Université de Californie à San Diego a eu une idée brillante. Placer un échantillon de tissu tumoral issu d'une biopsie par-dessus un morceau d'aile de morpho, puis l'observer avec un microscope ordinaire sous de la lumière polarisée. Les fibres de collagène, une protéine très présente dans les tissus fibreux, caractéristique de certains cancers, interagissent avec cette lumière, mais le signal qu'elle renvoie est normalement très faible. Grâce à l'aile du papillon, ce signal est amplifié. Les microstructures de l'aile renforcent la lumière réfléchie. Grâce à cette technique, que les scientifiques nomment MorphePol pour Morpho Enhanced Polarized Light Microscopy, on peut mesurer la densité et l'organisation des fibres de collagène dans le tissu tumoral. L'équipe a même créé un modèle mathématique qui convertit l'intensité de la lumière en information sur la structure du tissu. La méthode a été testée sur des échantillons de cancer du sein. Certains étaient très denses en collagène, d'autres moins, et les résultats correspondaient bien à ce qu'on obtient avec les techniques classiques, comme la coloration chimique des tissus ou des imageries très coûteuses. La découverte est prometteuse car elle est économique. Pas besoin de machines hyper sophistiquées, juste un microscope ordinaire et un morceau d'aile. Et elle est réutilisable. Un seul morceau d'aile peut servir longtemps, ce qui rend la technique durable. Si cette approche continue à être développée, elle pourrait révolutionner la façon dont on dépiste non seulement certains cancers, mais peut-être aussi d'autres maladies où la structure du tissu joue un rôle clé. C'était un papillon tropical pour identifier les cancers. Un texte de la rédaction paru le 4 novembre 2024 dans Québec Science.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. En 1920, entrée en vigueur du 19e amendement. Le 19e amendement de la Constitution américaine, garantissant aux femmes le droit de vote, entre officiellement en vigueur aux États-Unis. Cette victoire est l'aboutissement de plusieurs décennies de lutte du mouvement suffragiste américain. Cette date est depuis célébrée aux États-Unis sous le nom de « Journée de l'égalité des femmes ». Elle constitue une étape fondatrice dans la reconnaissance des droits civiques des femmes. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août.
Un inventaire non fait. Entrave d'éventuels travaux à l'ancien collège des Ursulines de Stansted. Un texte d'Ariane Godbout paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir. L'ancien collège des Ursulines de Stansted dans les cantons de l'Est tombe en ruine. Or, le retard d'une MRC dans la réalisation de l'inventaire de son patrimoine bâti empêche le bâtiment de bénéficier d'une enveloppe de Québec, dont la minceur est d'ailleurs critiquée à l'échelle de la province. L'ancien collège des Ursulines de Stansted n'est pas admissible au programme d'entente en patrimoine puisqu'il n'est pas inscrit dans un inventaire admissible ou cité par la MRC, explique le ministère de la Culture et des Communications. Cette histoire, c'est aussi celle de centaines d'autres immeubles patrimoniaux. En mai 2026, près de 40% des MRC du Québec ne s'étaient toujours pas conformés à la loi qui exige la production d'un inventaire de leur patrimoine bâti, soit tous les bâtiments construits avant 1940, avant le 1er avril 2026. Ce faisant, elle prive plusieurs édifices d'une enveloppe de 75 millions de dollars offerte par le ministère de la Culture dans le cadre du programme d'entente en patrimoine lancé en mai 2025. Des fonds insuffisants. Du côté de la MRC de Memphrémagog, on soutient qu'un accord a été conclu avec le ministère par l'intermédiaire de ce programme, mais que l'aide financière représente une fraction du montant demandé. Plusieurs projets de restauration avaient été identifiés, incluant la possibilité de soutenir des bâtiments appartenant à des propriétés privées, tels que le collège des Ursulines de Stansted, a-t-on indiqué au Devoir. Mais compte tenu des montants alloués, seuls deux projets ont été ciblés dans la région. La Grange Ronde de Mansonville et le Centre culturel Saint-Mathieu. La MRC s'est également engagée à effectuer son inventaire du patrimoine avant la fin de l'année 2026. Memphrémagog est loin d'être la seule MRC à déplorer le manque de fonds distribués par le ministère de la Culture. Michael Pilote, premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, indique également que l'argent versé par Québec est un pas dans la bonne direction, mais que les montants sont insuffisants pour répondre à la demande grandissante. En cause, le dépérissement du patrimoine et les coûts d'entretien qui ne cessent d'augmenter. Je comprends que c'est une responsabilité partagée entre le monde municipal, le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que les propriétaires, ajoute celui qui est également maire de Baie-Saint-Paul. Mais les propriétaires n'ont souvent pas les moyens de rénover à eux seuls, et les municipalités non plus. Selon lui, de plus en plus de MRC font appel au programme d'entente en patrimoine, qui exige également de leur part une contribution financière. Si ce constat traduit une préoccupation grandissante des municipalités envers la préservation du patrimoine, les sommes octroyées par le ministère cette année sont identiques à celles de 2025. La part du gâteau est plus petite, dit-il pour résumer. L'ancien collège des Ursulines condamné ? Devant l'état de l'ancien collège des Ursulines, la municipalité de Stanstead dit avoir sollicité une aide d'urgence. J'ai écrit au directeur régional du ministère de la Culture le 30 juin dernier. On nous avait dit qu'il y avait des fonds d'urgence qui pourraient être disponibles et je suis en attente d'une réponse, indique le directeur général de la municipalité de Stanstead, Hugues Ménard. Il se montre cependant sceptique sur le fait que cette aide puisse être suffisante pour répondre aux besoins. On parle toujours de millions, et ça, c'est juste pour solidifier le bâtiment. On ne parle pas encore de rénovation, précise-t-il. En 2020, la destruction du passage qui reliait l'ancien collège des Ursulines à l'aile Sainte-Famille a laissé un trou béant sur le flanc gauche de l'édifice, seulement recouvert de feuilles de tôle et sans travaux de consolidation. Le reste du mur s'est totalement effondré l'année dernière, laissant l'intérieur du bâtiment exposé aux intempéries. La municipalité continue de collaborer avec le propriétaire du bâtiment, Gestion Fratelli, pour trouver des solutions selon M. Ménard. On veut travailler de concert avec lui. On a eu des rencontres. Il espère qu'il y ait de l'argent public qui vienne l'aider. Selon lui, il n'y a pas de mobilisation pour sauver l'ancien collège dont le mur est tombé tout seul. On n'a pas eu d'appel, mais on a beaucoup plus de citoyens qui ont hâte que le trou disparaisse. C'était un inventaire non fait, entrave d'éventuels travaux à l'ancien collège des Ursulines de Stanstead. Un texte d'Ariane Godbout, paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir.